Alors, cette communication devait être faite par Bénédicte Dompsur. Bénédicte Dompsur est une étudiante qui est actuellement en DEA, prépare doctorat d'histoire sur les reliques de la Passion du Christ. Dans le cadre, alors c'est évidemment un sujet original qui a été peu étudié, et dans le cadre, bien sûr, donc d'un DEA à l'Université Lyon 3 sous l'autorité du professeur de Motz, professeur d'histoire médiévale, et dans le cadre de nos groupes de recherche du GERAT, groupe d'études de recherche Rhône-Alpes du linceul de Turin, qui existe maintenant depuis 1994. Et le but, c'est d'arriver un petit peu à suivre la trajectoire des reliques de la Passion du Christ, et notamment de la relique des reliques, le linceul. Nous nous trouvons confrontés ici aujourd'hui au même problème, un petit peu que celui de la Bible et de l'Évangile, enfin au même problème, disons, il y a des relations qu'on peut établir. Nous trouvons autant de bêtises racontées sur la question d'un côté comme d'un autre. À tout prix vouloir défendre le linceul en cherchant une trace historique n'importe laquelle, c'est enterrer le linceul parce que nos ennemis, c'est toujours la même chose, utilisent les âneries que nous sortons pour pouvoir nous enfoncer. Alors depuis des années, on a cessé de prendre comme hypothèse de base, voire même prétendre que le linceul était tout simplement l'image d'Hédès qui nous est présentée comme une sorte de légende par Eusèbe de Césarée et Vague le Scolastique. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais pour montrer un peu l'enjeu du problème sur ces reliques. Alors, évidemment, les rationalistes, et notamment dans Sciences et Avenir et autres revues, ont eu beau jeu de dire, ben évidemment, avant la datation radiocarbone, ce n'est que de la légende, puisque c'est fondé sur une légende. Donc évidemment, on n'a rien d'autre. Et c'était très facile pour les radiocarbonistes de prendre le faux de Pierre Narcisse, 1300 et quelques, pour dire, ben regardez, nous, le linceul apparaît à ce moment-là en Occident, donc il est né en Occident au Moyen-Âge. D'ailleurs, la fourchette radiocarbone tombe dedans. On a aussi très vite confondu date historique et datation radiocarbone. Ce sont quand même deux choses différentes. D'un autre côté, évidemment, il y a face aux reliques tout un courant, d'abord bien sûr rationaliste, mais les protestants aussi, anti-reliques. Alors évidemment, dès qu'on parle par exemple de la relique, d'un bout de la relique de la vraie croix, évidemment, vous prenez tous les bouts de relique de la vraie croix que vous avez, et vous avez une croix de 15 mètres de long, ou je ne sais trop quoi, chose de genre. Bon, là aussi on tombe dans la dérision, dans l'ironie, dans le discours stupide, bête. Alors on n'ose plus en parler, parce qu'on se dit effectivement, à force de répéter toujours les mêmes choses, on finit par se dire, effectivement, il ne faut peut-être pas trop insister là-dessus, de toute façon nous avons les évangiles et autres. Pourquoi ne pas non plus tenter de travailler sur la question, de chercher intelligemment, scientifiquement, et voir si nous n'avons pas des traces sur ces fameuses reliques. Bien sûr, nous avons un autre problème, c'est que les reliques se sont multipliées de façon impressionnante à partir d'une certaine époque, 7e, 8e siècle, à tel point que les pistes peuvent être brouillées. Mais là aussi, c'est pas parce que les pistes sont brouillées que ça doit nous empêcher de travailler. C'est bien le travail de l'historien, c'est un enquêteur l'historien. Est-ce que face à un crime, parce que les pistes sont brouillées, monsieur l'inspecteur ne va pas tenter de chercher la vérité? Et il faut, c'est bien le travail de l'historien, sinon c'est la négation même du travail de l'historien. Un autre problème s'est présenté pour ces reliques. On a, faut faire attention à ce que l'on appelle reliques. Et ici, je rentre directement dans le travail de Bénédicte de Dompsur. Alors, évidemment, vous m'excuserez parce que je prends un travail que, bon, même si je connais un peu la question en tant que responsable du Géralt, l'ayant un petit peu travaillé, malgré tout, depuis un an, deux ans, elle commence à travailler ce DEA et elle serait bien sûr bien plus compétente que moi pour présenter le travail. Donc, je vais essayer de présenter du mieux possible. Il nous faut d'abord faire la distinction en introduction tout de suite entre images et reliques. Les images sont des représentations. On appellera donc images des représentations du visage du Christ apparues miraculeusement ou reproduites d'après un prototype miraculeux, voire même images des peintures, des icônes. Et là, il faut tout de suite faire la différence entre images achéropoïètes, donc c'est ça, image de reproduction miraculeuse, non faite de main d'homme, et relique. La relique, qu'est-ce que c'est? La relique, eh bien, c'est un témoin de la vie du Christ ou d'un saint. C'est-à-dire qu'il a touché le corps, un fragment du corps, des objets dont il a eu usage. Par exemple, des traces de sang, de boue trouvées sur le linceul attestent la présence d'un corps. Le linceul est donc bien une relique. Les reliques ont fait aussi l'objet d'une vénération très particulière. Le Libri Carolini dit ceci: « Seules les reliques auront part à la résurrection à la fin du monde. Les reliques seules ont droit à plus d'honneur et de vénération. » C'est-à-dire que très tôt, on fait la distinction, et ça c'est capital, c'est essentiel pour éviter de tomber dans des âneries, on fait la distinction entre relique et image. La relique, c'est ce qui a touché, c'est ce qui a appartenu, c'est ce qui fait partie de la personne. Bien sûr, il faut une autre difficulté surgit, parce que, comme toujours, là vous allez dire, mais décidément, vous aimez compliquer les choses. Monsieur vient de compliquer les choses, vous continuez, et finalement, vous allez, à force, vous allez refuser de nous donner des conclusions, des choses. Si, il y a bien des bases, c'est ça qu'il faut comprendre, je crois, il y a des bases qui sont des choses. Nous arrivons à avoir des certitudes, des convictions profondes, des relations nous faisons, et ça permet d'avoir des bases plus solides que de tenir des discours effectivement vraiment fondamentalistes ou d'une apologétique facile. Encore une fois, pour les reliques, on se trouve à un autre problème. Il y a les reliques directes et indirectes. Et puis, les reliques directes, c'est celles qui ont touché le corps, qui ont appartenu. Bien sûr. Et puis, il y a celles qui sont indirectes, c'est-à-dire qui ont des reliques qui ont touché des reliques. Et qui deviennent par la même relique en quelque sorte. Il faut savoir les distinguer. Pour autant, est-ce que nous sommes face à des pistes vraiment brouillées, à un bazar digne d'un brocanteur où serait mélangé le beau meuble de style, le beau meuble d'époque et puis le meuble de style imitation Conforama ou Ikea, que sais-je? Non, pas du tout. Nos ancêtres n'étaient quand même pas des imbéciles. Il savait faire la différence. Or, le christianisme débute tout de suite par des martyrs. Nous verrons tout à l'heure, j'en parlerai dans la communication, enfin, en début d'après-midi. Mais le martyr fait partie presque inhérente de la vie du chrétien, enfin de l'Église. Et très tôt, on prend un objet, un élément, même du corps qui appartenait à ce martyr, pour le vénérer. Plus tard, on fera des images. Ces images permettront de se rappeler, c'est un souvenir, mais on sait faire la différence entre l'image et la relique. Et ça, c'est un point fondamental pour pouvoir éviter de déraper dans l'histoire du linceul de Turin et des reliques de la Passion du Christ. La vénération des reliques des martyrs, donc, s'est développée très tôt. En 401, au 5e concile de Carthage, un nouveau canon, item placuit, exige des reliques sur tous les autels. Plus tard, au 8e siècle, pendant la période de l'iconoclasme, le culte des reliques a été un peu préservé, tandis que les attaques étaient surtout dirigées contre les images. Alors ici, le professeur de Motz, alors je prends les personnes qui sont spécialistes de la question, et notamment tous les spécialistes en byzantinologie, sont formels. Ainsi que Michel Kaplan, qui fait autorité actuellement sur la question, pendant la période de l'iconoclasme, les reliques de la Passion du Christ et reliques des saints étaient conservées à la chapelle du Bucoléon ou du Pharos, donc au palais impérial, alors que les images sont pourchassées par les mêmes empereurs. Donc ça, c'est un point intéressant qui confirme ce que nous venons de dire, la distinction entre images et reliques. Mais les empereurs iconoclastes sont des empereurs chrétiens, très respectueux de la foi, très chrétien, voulant même d'ailleurs intervenir dans le domaine dogmatique. Pour un empereur d'iconoclaste, je crois que c'est Constantin Copronyme, voulait voir une question de monophysisme, d'hérésie christique au niveau de l'iconoclasme, au niveau des images, n'est-ce pas? On reprochait à certains moines ou à certaines personnes de ne plus faire distinction entre l'image et la personne. Donc il va se développer toute une théologie là-dessus. Qu'aurait eu bien fait d'ailleurs, aurait eu bien fait de lire au passage un certain Calvin, clerc de seconde zone, qui a écrit sur les images et la Bible et qui a raconté n'importe quoi. La question avait été réglée par d'éminents théologiens et conciles à Byzance. Alors, pour parler des reliques de la Passion, Il faut d'abord voir les objets de la passion dans la Bible, ce que nous en savons sur leur présence, ce que l'on nous en dit. Ensuite, s'intéresser à ces reliques sur Constantinople et de savoir ce qu'elles sont devenues après la chute de Constantinople en 1204. Croisade malheureuse, d'ailleurs déviée pour des questions d'argent par Venise, le doge de Venise. Alors, ça nous fait trois étapes au fond. La première, la Bible, ce que nous disent les évangiles sur cette question. Ensuite, ces reliques à Constantinople, sont-ils présentes, où sont-elles? Ça, c'est la partie la plus difficile. Et ensuite, après 1204, vous en doutez bien que, commençant son travail, nous en sommes, pour un certain nombre de points, à des hypothèses. Et je crois qu'il faut rester aux hypothèses. Les reliques de la Passion à Jérusalem. Saint Luc, tout d'abord, nous parle de la croix. Ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour le porter derrière Jésus. Nous avons ici, donc, mentionné une des principales reliques de la Passion, la croix. La croix sur laquelle il a été cloué, nous disent les évangélistes. Ils l'y crucifièrent, l'instrument de supplice, donc devient, bien sûr, vous le savez, après, signe des chrétiens. Saint Luc parle de Joseph d'Arimathie qui descendit le Christ, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe. Saint Matthieu, plus précis, Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans un tombeau neuf. Quant à Saint Jean, il nous dit, ils prirent le corps de Jésus, le lièrent de linge avec des aromates, selon le mode de sépulture en usage chez les Juifs. Ici, d'ailleurs, l'interprétation des orthodoxes est de dire que le linceul, c'était une succession de bandelettes. Vous voyez, des bandelettes. Le Christ a été mis dans des bandelettes. Alors, j'ai eu cette remarque qui a été faite par un orthodoxe. Je dis, mais alors le linceul? Ah ben oui, nous y croyons, le linceul. Alors le linceul, c'est un linge dans lequel le Christ a été enveloppé tout d'abord avant de le mener au tombeau. Et puis ensuite, dans le tombeau, on l'a mis dans des bandelettes. D'ailleurs, là, on voit qu'au niveau des linges, nous avons des difficultés qui sont difficiles à résoudre pour l'instant, que beaucoup ont tenté, mais c'est vrai que Saint Jean parle d'Otonia, on parle de Sudarium, on parle de Linteum. Nous avons un vocabulaire différent. Et ce vocabulaire différent pose des difficultés d'interprétation dans la période antérieure. Saint-Luc revient sur les linges après la résurrection. Pierre, cependant, partit et courut au tombeau, mais se penchant, il ne voit que les linges. Saint-Jean développe le récit. Il voit les linges gisant à plat, ainsi que le suaire qui passait sur la tête, non pas avec les linges, mais resté enroulé à sa place. Dominique Vien a fait allusion aux travaux de ces éminents spécialistes que sont Tresmontant et Carmignac, et l'un d'eux, je crois que c'est Carmignac, en faisant cette traduction pour revenir au substrat hébreu, en disant mais le terme c'est pas enroulé, c'est l'expression donnerait comme si le linge était affaissé sur lui-même. Donc l'apôtre vit et crut. Pour arriver à comprendre cette phrase, il vit et crut, il a cru parce que il a vu quoi? D'après la traduction que donnerait Carmignac, qui est intéressante d'ailleurs, qui ne résout peut-être pas tous les problèmes, mais qui est une hypothèse intéressante, c'est que finalement les bandelettes sont restées, tout est resté, mais le corps est sorti, lui a donné l'impression que le corps était sorti sans que rien n'ait été défait. C'est-à-dire que le linge s'est affaissé sur lui-même, il a vu qu'il n'y avait plus de corps dedans, donc il a cru. Il ne pouvait que croire, puisque de toute façon personne n'avait pu rouler la pierre et que rien ne montrait que ça avait été bougé. Non, c'était resté intact, mais affaissé sur lui-même. Donc, il a cru. Hypothèse intéressante, qui a été développée, d'ailleurs, par de nombreuses personnes qui ont travaillé sur le linceul. Il y a, bien sûr, les autres reliques. La croix, donc nous avons la croix, les linges et le linceul. Il y a d'autres objets qui peuvent retenir l'attention. La lance, la couronne d'épines. La couronne d'épines, Saint Jean. Les soldats, tressant une couronne avec des épines, lui posèrent sur la tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. De même, ces trois évangélistes mentionnent une éponge qui servit à offrir du vinaigre à Jésus pour apaiser sa soif. Là encore, on a Saint Jean, après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Ceci donc accomplit l'écriture, dans ma soif, il m'abreuvait de vinaigre. Vinaigre ou peut-être d'un mélange d'autres éléments, de fiel et autres, qui pouvaient être considérés par certains historiens et archéologues comme une sorte d'anesthésiant. Ça n'étanche pas vraiment la soif, mais il y avait ça à côté, cette soif. Et en fait, la soif du Christ est une autre soif, mais bon, je ne suis pas compétent pour en parler. Mais celui qui était là a attendu ce produit, qui était souvent peut-être un produit qui permettait aux condamnés, vous avez dit un supplice très dur, alors ceux qui n'étaient pas crucifiés étaient enlacés à la croix et ils mouraient d'asphyxie. Et pour que l'asphyxie soit plus rapide, on donnait un coup d'épée dans les tibias. Quels sont les tibias? Le corps ne pouvait, le personnage, le condamné, ne pouvait plus se redresser pour prendre sa respiration. Saint Jean est seul à mentionner la lance qui servit à transpercer le cœur de Jésus pour vérifier sa mort. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et est sorti du sang et de l'eau. Donc en fait, l'exposé qui suit, poser des jalons un peu rapidement, parce que là encore ce ne sont que des jalons, vont s'intéresser à la croix, les linges, le linceul, la couronne d'épines, l'éponge et la lance. Il peut y avoir d'autres objets qui s'y ajoutent ponctuellement. Mais là encore, il faudra savoir faire la part des choses. Alors, à Jérusalem, en plus du témoignage des évangiles, nous avons des traces de ces reliques à Jérusalem. Un témoignage de saint Paulin d'Aunole en 409, après Jésus-Christ, parle de pèlerins qui vont voir la crèche où Jésus est né, le fleuve où il a été baptisé, le jardin où le maître a prié, l'atrium où il a été jugé, la colonne où il a été attaché, les épines dont il a été couronné, le bois où il a été sacrifié, le rocher où il a été inhumé, le tombeau. Donc, on pourrait penser qu'à cette époque, à Jérusalem, se trouvaient couronne d'épines et croix. D'autre part, en 340, saint Cyril de Jérusalem fait allusion au linceul témoin de la résurrection. Il fait allusion. Au VIe siècle, nous avons quelques traces de cette présence du linceul à Jérusalem. Oui, nous avons un témoignage, mais alors là, c'est un témoignage indirect. Alors, il ne faut pas se leurrer, les difficultés sont énormes. Vers 550, un texte anonyme, qui est un texte donc, qui a été rapporté, que nous trouvons dans Migne et d'autres écrivains, qui serait rapporté par un anonyme au XIe siècle. Ce témoignage mentionne que Justinien Ier, 527-565, aurait envoyé des hommes dignes de foi, alors je cite le texte, des hommes dignes de foi et d'estime à Jérusalem pour mesurer la haute stature de notre Seigneur Jésus-Christ, pour réaliser la grande croix de Sainte Sophie à Constantinople. Alors évidemment, si on envoie des émissaires pour aller mesurer la stature du Christ à Jérusalem, pour faire une croix qui correspond à la taille du Christ, c'est donc que, si on raisonne bêtement, c'est donc que cette stature, on l'a. C'est donc qu'on sait qu'on dispose de quelque chose qui va nous donner une dimension. Donc ça serait peut-être indirectement, le texte n'est pas explicite, mais implicitement, le linceul qui serait exposé à Jérusalem. Ce n'est pas du tout contradictoire avec les témoignages précédents. Un peu plus tard, saint Brolion, évêque de Saragosse, indique que les linges sépulcraux du Seigneur, du Sauveur, ont échappé aux Romains, aux Perses et aux Arabes. La dernière attaque perse a lieu en 614 et la première attaque arabe vers 635. Alors, là, nous avons émis une hypothèse qui est à vérifier, mais qui est probable, à savoir que face à la montée donc des Perses, l'Empire perse est tout de suite à côté frontalier de l'Empire byzantin, et l'Empire byzantin étant l'héritier de l'Empire romain, ces Perses ont souvent été dangereux pour l'Empire romain, notamment au IIIe siècle, avec cette période d'invasion où les Perses, c'est un empire puissant, et menacent Rome sur ses frontières orientales. Les Perses, ici, n'ont jamais renoncé et au VIIe siècle foncent sur cet empire. Donc on peut imaginer, enfin même pas imaginer, supposer, émettre l'hypothèse que les reliques étant à Jérusalem, les empereurs, connaissant l'existence bien sûr de ces reliques, les rapatrient sur Constantinople. Cependant, nous n'avons aucun renseignement sur ce transfert. C'est une hypothèse. Mais c'est l'hypothèse la plus logique avec ce que nous savons, avant et après. C'est sous Constance II que commencèrent les translations, semble-t-il, c'est-à-dire fin du IVe siècle, de quelques reliques dans la capitale byzantine, un morceau de la croix. Et puis ensuite, translation presque totale de toutes ces reliques pour qu'elles ne tombent pas dans les mains des Perses. Deuxième élément, les reliques de la Passion à Constantinople. La présence du linceul semble attestée à certaines époques. Au 7e siècle, sous le règne de Justinien Dieu, entre 685 et 695, après Jésus-Christ, on trouve les premières monnaies d'or, représentant un visage du Christ qui est un visage qui nous fait penser à celui du linceul, avec cette fameuse mèche de cheveux, une barbe bifide en deux parties, les cheveux présentés sous forme d'une masse de cheveux en boudin, un petit peu, comme l'expression qui est employée. On voit un pli au niveau de la gorge, on voit des éléments que nous lisons sur le linceul. On a une mention, mais alors là, il faut faire attention, nous n'avons pas pu la vérifier encore, au 7e, 8e siècle, d'un pape, Étienne II, Étienne III, qui parle lors d'un synode d'un linge sur lequel, d'un linge immaculé sur lequel le Christ est étendu et a imprimé son corps pour le laisser pour la postérité ceux qui ne l'auraient pas vu. Bon, ça signifie malgré tout, ce texte est à vérifier parce que nous n'avons pour l'instant que le texte français, il faudrait reprendre la traduction parce qu'il faut se méfier souvent des traductions, des termes, comment ils sont employés. Pas certains ont confondu suaire et linceul et suaire, il y a le terme de sidoine, de linceul, il y a un certain nombre de termes. Il faut arriver un petit peu à savoir à quoi correspondent chacun de ces... Ce qui a fait dire d'ailleurs récemment à une certaine dame qui défend le linceul que c'était du rationalisme que de tenter de faire la différence entre tous ces termes. Il s'agit, pour ne pas la nommer, de Madame Saliato, italienne, archéologue, et qui défend le linceul. C'est tout à fait louable, mais encore une fois, nous tombons dans ce genre d'erreur qui veut que l'on se cache la réalité pour défendre une thèse et qu'en fait, on ne défend rien du tout au bout du compte. Et on écarte des documents. D'ailleurs, c'est l'un des problèmes les plus graves que l'on peut noter dans cette histoire du linceul, c'est que si la science a travaillé sérieusement, au niveau de l'histoire, le sérieux n'a pas été au rendez-vous. Beaucoup d'amateurisme, si l'on veut, et aussi beaucoup de travail qui est fait, mais sans consulter les documents. Beaucoup ont eu en main les documents, quelques documents que je vais vous citer, des témoignages directs du 11e, 12e siècle. Ils les ont écartés d'office parce que ça contredisait la thèse de l'image d'Édesse. Alors l'image d'Édesse, ça ne représente aucune preuve. C'est une histoire, ça part d'une légende, n'est-ce pas, d'Akbar, qui nous parle de ce linge où il y a le visage du Christ et que, à sa vue, Akbar aurait été guéri. Or ce linge, ensuite, est parti vers Édesse, et puis il a été ensuite, après l'iconoclasme, récupéré en 944, translaté, et pour un certain nombre de personnes, ce serait le... Nous nous inscrivons en faux face à cette thèse, parce que, en partant de cette thèse, on a éliminé des témoignages qui la contredisaient, et vous allez voir. En 1092, Robert de Flandre reçoit une lettre d'Alexis Ier Comnène qu'il appelle, alors évidemment, 1092, nous citions quoi? Quelques années après 1071. Qu'est-ce que 1071? C'est la bataille du Manzikert, c'est l'arrivée des Turcs et Djoukides qui font sur l'Empire byzantin. Et là, l'empereur Alexis Ier Comnène lance un appel à l'Occident. L'interamina post resurrectionem et ius inventa in sepulcro, c'est-à-dire les linges de lin retrouvés dans le tombeau après la résurrection. L'interamina, que l'on traduit par linge de lin, est le terme usuellement utilisé pour désigner le linceul. Un siècle plus tard, en 1201, Nicolas Mésarites, gardien des reliques au phare, dit « Ici, il ressuscite et suaire avec les linges en sont la manifestation. Ils sont en lin. Ils bravent la corruption car ils ont enveloppé ineffable mort, nu et embaumé après la passion. » Nu. Cette nudité est intéressante parce qu'elle est en contradiction avec les représentations de l'époque. Évidemment, on ne peut pas aller plus loin dans l'interprétation pour l'instant. Nous avons dans cette chronologie beaucoup trop de manques. Hein. Mais les jalons posés sont intéressants. Et montre bien que nous avons des témoignages sûrs sur l'existence de cela seul, et non plus une légende, cette image d'Édesse. Dans un autre inventaire, en 1150, un pèlerin anglais dresse la liste. Il nomme la croix, la couronne d'épines, les clous. Plus tard, Antoine, archevêque de Novgorod, dans un voyage à Constantinople vers 1200, dresse un autre inventaire. Il mentionne la croix, la couronne d'épines et les clous, comme dans les documents précédents. Mais on y trouve également l'éponge et la lance. Toutes ces reliques se trouvaient dans la chapelle du Bucoléon, la chapelle impériale. Nous avons donc dans cette chapelle deux types de reliques. Le reste des instruments de la Passion, conservé à la chapelle impériale, et les reliques de la Théotokos, mère de Dieu, et maîtresse de Constantinople, conservée à Notre-Dame des Blackernes. Alors, géographiquement, pour vous donner une idée, disons que Notre-Dame des Blackernes correspondrait à Fourvière, géographiquement, et que la chapelle du Pharos et de Constantinople, enfin le palais impérial, on pourrait situer au-delà de Gerland. Donc c'est-à-dire qu'au fond, les reliques de la Passion du Christ sont au palais impérial, dans la chapelle du Pharos, près de la mer, pas loin du Bosphore, enfin du Bosphore, n'est-ce pas, et à la partie plus au nord-est, on a les Blackernes. Donc nous avons des lieux très différents. Et il se trouve que, autre témoignage intéressant, c'est que dans les inventaires que je vous ai présentés, on nous parle, alors dans ce sanctuaire, dans la chapelle de l'empereur impérial de Constantinople, je vous fais la traduction directement, hein, nous avons, alors item pars, hein, donc les linges, le linceul dans lequel Joseph d'Arimathie a mérité d'envelopper le corps du Christ. Puis nous avons le sidoine, traditionnellement certains traduisent sidoine par linceul. Mais le pire, c'est que les choses se compliquent, donc nous avons bien l'inteum, l'interamina, le linceul, puis le sidoine, alors là une relation avec Charlemagne. Ensuite nous avons le manutergium, et le manutergium en latin, manuterge, petit linge, se traduit aussi en arabe par mandilion. Et mandilion c'est un mouchoir, et le mandilion c'est quoi? C'est l'image d'Édesse, c'est l'image à Kéropoyette. Donc on a dans la chapelle impériale le sidoine, le linceul et l'image d'Édesse. Alors, je ne suis pas mathématicien, matheux, mais enfin, bon, mon primaire élémentaire me fait dire qu'il y a trois choses différentes. S'il y a trois choses différentes, ces trois choses font qu'on a le linceul et l'image d'Édesse. C'est impossible à confondre. Donc, il faut être un peu têtu pour pouvoir, comme j'ai vu encore récemment, malheureusement, malgré cette thèse qui maintenant commence un petit peu à être connue, vouloir confondre l'image d'Édesse et le linceul. Un est une légende. Une légende, une histoire, une tradition, disons, si vous voulez, pour éviter de rentrer dans la polémique, une tradition de ce linge imprimé par le Christ, bon, peut-être, ok. Il a été détruit lors de la prise de Constantinople, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, de toute façon, il n'a rien à voir avec le linceul. Donc, si au XIIe siècle, le linceul n'est pas l'image d'Édesse, au VIIIe siècle, le linceul n'est pas l'image d'Édesse. Ni au IXe siècle. Donc, les reliques de la Passion sont bien restées à Constantinople pendant l'iconoclasme, et l'image d'Édesse, elle, a fui parce que c'était une image. Revenons à la définition du début, image et relique. On savait faire à Constantinople la différence entre image et relique. Et ça, c'est un point important parce que ça fait avancer l'histoire d'un grand pas, même s'il est petit chronologiquement, mais d'un grand pas dans l'histoire du linceul de Turin. Parce que là, nous nous trouvons au 11e, 12e siècle des témoignages qui sont en totale contradiction avec la datation radiocarbone. D'autant plus qu'un témoignage, il faut que j'abrège, vous aurez le texte plus complet dans les actes, un témoignage en 1200 dit « L'inteum faciem Christi representens ». Intéressant, linceul, alors faciem. Alors faciem, hein, donc la face, le visage, non. Au Moyen-Âge, en recourant au dictionnaire au Ducange et au dictionnaire Nermeyer de médiéval, nous dit que le terme de faciem peut, au Moyen-Âge, s'interpréter dans le terme de silhouette, contour, forme. Donc, ce n'est pas sollicité, extrapolé même, hein, le texte, que de dire « L'item faciem Christi representans », l'un seul représentant la silhouette du Christ. Donc nous aurions ici une première mention de cette représentation du corps du Christ sur le linceul. Et le même témoignage parle un peu plus loin de l'image du Sauveur, on retombe sur l'image d'Hédès. Les témoignages donc nous montrent qu'il existait bien un linceul, le linceul à Byzance. La question qui reste posée, pour arriver sur la fin de cette deuxième partie, c'est que est-ce que le linceul de Turin, que nous avons actuellement, est bien le linceul dont parlent ces témoignages byzantins au XIIe siècle? Parce que s'il a disparu en 1204 lors de cette fameuse croisade malheureuse, on verra, on voit d'ailleurs une lettre de l'empereur qui réclame cet insigne relique, hein, en stigmatisant le pillage des croisés de Constantinople par les croisés. Innocent III condamnera d'ailleurs cette croisade et ce pillage honteux. Est-ce que nous avons une relation entre les deux? Est-ce que nous avons un témoignage qui nous permet de dire, d'identifier le linceul de Turin avec le linceul byzantin? Nous avons le fameux Codex Prae. Il est connu de beaucoup. Sur ce Codex Prae, nous trouvons une représentation très curieuse de l'ensevelissement du Christ. Le Prae, c'est la Hongrie, et la Hongrie avait des relations très importantes. C'est toute la période, la région de l'Illyricum, cette région qui est entre l'Italie et l'Empire byzantin, où sont venus s'installer les Avars, enfin bon, c'est toute la période, tout le secteur des Balkans, hein, c'est un secteur très chaud où se sont installées des quantités de peuples à cette époque-là, entre le 4e, 5e siècle et le 10e, 11e siècle. Et là, les Avars, donc les Hongrois, s'installeront, et des relations vont s'établir très étroites entre ces peuples, puisque Constantinople a converti la plupart de ses populations au christianisme. Et à un moment donné, d'ailleurs, les relations seront telles qu'à Constantinople, on aura le futur roi de Hongrie qui sera à la cour, reçu par Michel Comnène, qui lui a proposé d'ailleurs la couronne. Il n'a pas de fils. Peu de temps après, d'ailleurs, il lui a proposé sa fille et d'ailleurs le trône impérial de Byzance. Quelque temps après, il aura un fils, mais la fille est toujours proposée. Il ne voudra plus de la fille puisqu'il n'a pas le trône et repartira chez lui. Et ceci pour expliquer les relations importantes qu'il y avait entre ces deux cultures. Et le fait qu'après, nous avons découvert un codex de musique daté du XIIe siècle et qui représente une petite miniature où vous avez l'ensevelissement du Christ. Première partie de cet ensevelissement, le Christ, le corps du Christ entièrement nu est étendu sur un linceul, montré en deux parties. Il y a une petite pliure du tissu au milieu. Autre aspect intéressant, la poitrine du Christ est très remontée. Autre élément, Joseph d'Arimathie, Nicodème, qui est en train d'oindre le Christ, a posé la main sur le corps du Christ, il n'y a plus de pouce. Le pouce a disparu. Les deux mains du Christ sont croisées sur le bas du ventre, sans pouce. Intéressant, ce n'est pas des détails qui s'inventent, ça. Ils correspondent à ce que l'on trouve sur le linceul. Mieux encore, la deuxième partie de ce codex présente un linceul en deux parties, avec des créneaux, des chevrons, comme des chevrons du tissu. Et sur les deux faces, nous avons un petit détail capital, essentiel. Il faut vraiment avoir vu le linceul pour noter ces deux détails. D'un côté, nous avons quatre petits points qui forment un P. De l'autre côté, nous avons cinq petits points qui forment comme une espèce de casserole, en quelque sorte, hein, ordonnée de façon, si vous voulez, très, très géométrique. Or, ces petits points, on les trouve sur le linceul, de dos et de face. Il s'agit de brûlures, de petits points qui sont le résultat de brûlures, de coups d'encens lors de cérémonies d'encensement du linceul à Byzance. Or, ces brûlures se retrouvent pareil puisque le linceul était plié, on appelait ça le tétradiplon, plié en quatre. Hein. Et donc, on traversait tout le tissu de part et d'autre. Or, sur le Codex Prae, qui est daté du XIIe siècle, nous trouvons ces traces de brûlures, les pouces ont disparu, que nous trouvons sur le linceul de Turin que la datation radiocarbone nous met au XIIIe siècle. Il y a donc une contradiction ici. Cette contradiction, en l'état actuel des choses, il faut... Alors, on peut pas, on n'a pas quelque chose d'absolu, mais quand même, c'est extrêmement contraignant comme témoignage pour dire que s'avancer, d'un point de vue historique, en laissant de côté les autres éléments, que le linceul de Turin est bien le même linceul que possédait Byzance. En tout cas, c'est l'une actuellement des conclusions de Bénédicte de Dompsure. Que sont devenues, pour terminer, ces reliques de la Passion à partir du XIIIe siècle? Ben, c'est très difficile de les suivre. Le pillage de Constantinople a brouillé un peu les pistes. Certaines se sont retrouvées en Grèce. On parle de la filiation pour le linceul de Geoffroy de Charny, où ensuite le linceul aurait été exposé. Bon, ça, c'est une histoire qui est plus connue et peut-être moins, comment dire, moins intéressante à développer actuellement. Conclusion, la question des reliques est donc celle des reliques de la Passion du Christ, est loin d'être complètement résolue d'un point de vue historique. Donc je cite Bénédicte, je vous ai donné ici que l'ébauche d'une étude. En effet, si la question des images à Constantinople a beaucoup été étudiée, il reste beaucoup à faire en ce qui concerne les reliques. Vérifier leur authenticité. Beaucoup de faux ont circulé au Moyen-Âge, c'est certain. Reconstituer leur itinéraire. Pour ça, il faut regrouper les témoignages et vérifier et confronter. Alors, dans la notion de faux, il faut faire attention à une chose, qui est très importante quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a fabriqué des faux dans l'intention de faire des faux. C'est qu'il y a des reliques qui ne sont pas des reliques directes du Christ, mais qui peuvent être considérées comme des reliques de la Vierge ou autre chose, parce qu'elles ont touché certaines images considérées comme miraculeuses, représentant tel ou tel personnage biblique, ou tel saint, et que l'on les a multipliées à profusion. Ces dernières années, c'est le linceul qui est au centre des études scientifiques. Mais la recherche historique reste incomplète et n'établit pas encore de continuité. Il subsiste des périodes de silence à combler afin de pouvoir conclure une identité entre le linceul de Christ, le linceul byzantin et le linceul de Turin. Donc c'est une histoire croisée qu'il faudra faire. Alors voilà l'état un petit peu actuellement du travail de Bénédicte de Dompsure, et dont il faut saluer d'ailleurs le courage, l'éminent courage, parce que sur le plan universitaire, c'est un travail colossal énorme. Il fallait se trouver aussi un professeur qui veuille bien accepter de prendre en main ce travail, parce que sur le plan universitaire, on a aussi beaucoup de préjugés, et le professeur de mode, ça a l'éminent courage de pouvoir, d'avoir accepté ce travail, dans le cadre donc des études de son centre des études carolingiennes au Moyen-Âge. Et Bénédicte a un travail énorme et colossal à faire, mais déjà, les premiers points que je vous ai donnés sont des jalons qui permettent de réfléchir sainement, semble-t-il, sur une question qui était extrêmement brouillée. Voilà. Des questions.
Voilà, donc je remercie M. Lezertel de nous avoir lu cette communication de Mademoiselle de Dompsure, et je remercie bien sûr Mademoiselle de Dompsure, et nous m'assurons bien sûr de nos prières. Alors nous avons un quart d'heure maintenant pour poser des questions, alors soit à M. Vien, soit à M. Sertel, concernant soit les reliques de la Passion du Christ, soit donc l'exposé sur la Bible au risque de la science. Donc ne perdons pas de temps, puisque le temps nous est compté, et si certains veulent poser des questions, qu'ils se lèvent, on leur passera le micro.
Je m'adresse à M. Issertel. J'ai remis à M. le prieur un article concernant ce que l'on nomme être le linceul d'Argenteuil. C'est un ouvrage d'André Marion. Le linceul d'Argenteuil, en fait, d'après ce que dit André Marion, serait le vêtement porté par le Christ lors de sa montée au calvaire, et non pas le linceul de Turin. C'est deux choses très différentes. Alors la question que je vous pose est de savoir comment ce vêtement est arrivé à Argenteuil. J'ai mon idée, mais j'aimerais avoir la vôtre.
Alors, c'est une question complexe. Il y a l'abbé Le Quéré qui a travaillé là-dessus, et l'an dernier, nous l'avons fait venir d'ailleurs en réunion pour nous exposer son travail sur la tunique d'Argenteuil, la sainte tunique d'Argenteuil. Alors, cette tunique d'Argenteuil semblerait avoir été conservée par cette tunique donc du Christ qui est en laine, conservée par Saint-Pierre et ensuite elle aurait été transmise, semble-t-il, par récupérée dans l'Empire byzantin par Sainte-Hélène, et puis ensuite progressivement elle serait passée. Alors j'ai pas en tête et en mémoire, parce que alors je ne suis pas du tout spécialisé à la question, et c'est vrai que l'an dernier, voyez-vous, si j'avais pensé que vous me posiez cette question, j'aurais pris mes précautions, on prend des documents, parce que l'abbé Le Quéré a fait quelque chose de très bien sur la question. Donc je vais plaider mon ignorance, non pas coupable, parce que j'ai complètement abandonné ce terrain de recherche, pris par d'autres choses, et que c'est Bénédicte qui s'en occupe. Et justement, elle doit faire un travail de comparaison avec ça, qui me paraît un travail important. Alors, ceci dit, pour parler plus précisément sur cette huile d'Argenteuil, donc elle est bien attestée, elle est dans un état lamentable, parce qu'elle a été coupée, recoupée, redécoupée, etc. On en a réussi à récupérer des morceaux. Elle porte des traces de sang qui correspondent aux traces de sang qu'on trouve un peu sur linceul, et notamment, chose intéressante, au niveau du dos et des épaules, le frottement du portement de la croix. Là où ça devient dramatique avec Marion, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas confondre science expérimentale et histoire. Et c'est le problème, malheureusement, de Marion, qui a écrit certes des choses intéressantes. C'est un opticien. Hein. Il travaille à Orsay, laboratoire d'Orsay en optique. Et il a voulu confronter les deux et aboutir à une conclusion qui me paraît vraiment aberrante, à savoir que le Christ aurait porté la croix tout entière, parce que en grossissant et en plaquant la tunique d'Argenteuil sur le linceul, les taches de sang, les traces feraient que... Or, toute la tradition plôte et la tradition, sur le plan archéologique, nous rapporte bien qu'il est impossible de porter la croix tout entière, c'est quand même plus de 100 kilos. Je vois mal le Christ qui a eu des pertes de sang considérables, même si on va me dire, évidemment, il est Dieu, le Fils de Dieu, il peut tout. Ceci dit, ce n'est pas une explication pour l'historien, et puis ça va contre les témoignages. Alors là, il y a une espèce de chassé-croisé entre, malheureusement, les compétences éminentes de Marion sur le plan scientifique et son ignorance profonde en histoire. Il ne faut pas confondre tous ces éléments, parce qu'on arrive à des choses complètement aberrantes. C'est d'ailleurs un des points que je dénonçais tout à l'heure et dont parlait mon collègue Dominique Vien, c'est d'arriver à faire de l'apologétique stupide, dire n'importe quoi sous prétexte qu'on veut défendre quelque chose, et après, évidemment, en face, les autres, quand ils lisent, ils rigolent, parce que, évidemment, on a beau jeu d'apporter des textes qui contredisent. Or, le Stipes Crucis était planté au Golgotha, on ne portait que le petit boulum qui faisait déjà 40 kilos à lui seul, 30 à 40, soit 50 kilos, c'était déjà largement suffisant pour fatiguer un homme déjà sérieusement mis à mal par une flagellation et un couronnement d'épines, et puis une nuit passée s'endormir et tout. Le Christ a montré l'exemple, il a eu des réactions humaines parce qu'il fallait guiser, il était parfaitement homme aussi, donc il ne faut pas non plus dire des choses qui ne sont pas réelles. En revanche, vous avez raison de poser cette question parce qu'elle est très très importante, je m'arrêterai là-dessus, sur la question de la tunique d'Argenteuil, à savoir qu'il y a une relation à établir entre la tunique et le linceul et ses reliques. Là, c'est un travail que va faire Bénédicte, elle en est qu'au début, et j'ai peu de choses à vous dire sur les traces des reliques. En revanche, je peux vous dire une chose, c'est que l'on a des traces et une chronologie plus précise que le linceul pour sa venue en France. Ça, c'est certain, d'après ce que nous avait dit le père Le Quéré, le travail qu'il a fait là-dessus. Maintenant, je suis désolé, pouvoir vous en dire plus parce que je ne suis pas très compétent.
Autre question ? Oui.
Je continue avec la tunique d'Argenteuil. Comment se fait qu'il on dit dans l'Évangile que cette tunique a été jouée au dé par les soldats romains ? Comment donc a-t-elle pu arriver à Argenteuil à ce moment-là ?
Bah de toute façon, probablement qu'elle a dû être ou rachetée ou récupérée par les apôtres aux Romains en question, probablement. Mais je vous dis, j'aurais du mal à répondre à votre question, ne connaissant très mal la question de la tunique d'Argenteuil et n'en étant pas spécialisé. Alors, je vous renvoie une chose, vous pouvez trouver le livre, ou éventuellement à l'occasion, vous me le dites, je vous ferai passer le travail du père Le Quéré, qui est un petit ouvrage qui s'appelle La tunique d'Argenteuil, et qui est historique. Le père Le Quéré, c'est le travail qu'il a fait est sérieux sur la question. Donc là, vous aurez tous les éléments précis. En m'excusant de ne pas pouvoir vraiment vous répondre sur cette question que je connais très mal.
Ça tombe bien, nous pourrons faire un autre colloque là-dessus. merci, M. l'abbé de la Roque, d'être venu ici même parmi nous aujourd'hui. M. l'abbé de la Roque est sous-directeur du séminaire de Flavigny. Il est directeur de cette lettre aux prêtres qui maintenant fait son premier anniversaire. Une lettre aux prêtres qui a été décidée par notre supérieur général pour répondre simplement à un des buts de notre congrégation, de notre fraternité, qui est le sacerdoce, la messe bien sûr, mais aussi le sacerdoce. Le but donc est de s'occuper de ces prêtres et de leur faire découvrir un petit peu ce que nous faisons, quel est le combat doctrinal que nous menons. Il a fallu, comme l'écrivait M. l'abbé Laurençon dans le premier éditorial, un peu d'audace pour se présenter comme cela. D'aucuns trouveront le geste osé que le supérieur de la fraternité Saint-Pédice pour la France, banni contre les bannis, se permette ainsi d'adresser un courrier à l'ensemble du clergé français. N'y a-t-il pas là de provocation ? Il ne s'agissait pas bien sûr de provocation, il s'agissait peut-être d'un enseignement, il s'agissait certainement en tout cas de leur faire comprendre et d'essayer de leur faire découvrir ce qu'est la fraternité, pourquoi Mgr Lefebvre a-t-il pris ces décisions qu'il a dû prendre. Monsieur l'abbé, je vous laisse la parole là.
Merci bien. Pour reprendre le mot de Monsieur l'abbé Verdet, ce geste de la lettre aux prêtres n'est nullement une provocation, mais était une réponse à une demande. Demande implicite, bien sûr, d'une partie petite, mais non négligeable, du clergé français. D'un clergé qui, depuis quelques années, 3-4 ans, ouvre de plus en plus les yeux. Cette conférence, j'ai voulu l'intituler « Le clergé français à la croisée des chemins » parce que beaucoup de jeunes prêtres, essentiellement jeunes, se voient acculés un choix. Les faits qui les poussent à réaliser ce choix sont multiples. Je n'insisterai pas trop sur la question du nombre de prêtres qui va en diminuant de manière dramatique. Ils étaient 40 000 prêtre actif diocésain en 1981, 28 000 en 1995, 5 ans après, ils ne sont plus que 19 000. Et les estimations, très faciles à faire, nous donnent un chiffre de 8 à 9 000 prêtres pour 2006. Les vocations elles-mêmes vont en Europe et en France toujours en diminuant. À Lourdes, en novembre dernier, le père Guiraud, qui est le secrétaire du Conseil national des grands séminaires, le disait ouvertement, s'en inquiétait, le nombre des séminaristes va décroissant de 2 à 3% par an. Aucun effet JMJ, avoua-t-il. Plus grave encore, peut-être, les jeunes prêtres voient nombre de leurs confrères de séminaire abandonner le sacerdoce 4, 5, 6 ans après avoir commencé le ministère. Un exemple, sur le diocèse de Dijon, sur lequel est situé le séminaire, entre 1987 et 1998, donc en 12 années d'ordination, il y a eu 12 prêtres d'ordonnés. Sur les 12, 4 ont déjà abandonné leur sacerdoce. Donc des faits qui forcément font réfléchir les prêtres aimants de leur sacerdoce.
effet numérique, plus grave encore peut-être, il constate au sein même du clergé diocésain une division de plus en plus grande. Le modernisme est dissolvant, c'est pour cela qu'il n'a jamais tant parlé d'unité à rechercher, et donc il provoque inexorablement au sein des presbytériums, donc des ensembles de prêtres sur un diocèse, il provoque des divisions toujours plus profondes. Un de ces prêtres me racontait que lors des réunions presbytérales autour de l'évêque, on parlait de beaucoup de choses, des questions sociales, de l'entente entre le prêtre, le diacre et laïc, de la répartition des tâches, et ainsi de suite, mais que jamais on ne parlait de foi. Parce qu'à chaque fois qu'une question de foi était mise en avant, il y avait toujours un ou deux prêtres qui claquaient la porte. Témoignages oraux de cette division du clergé, témoignages écrits également, plus de 600 prêtres différents m'ont écrit depuis un an. Un prêtre de 42 ans, je crois, qui me dit « Je pourrais vous dresser une liste impressionnante de toutes les dérives, aberrations, hérésies, désobéissances et erreurs sur mon pauvre diocèse. Je pourrais vous l'écrire si cela n'était pas d'abord des souffrances. Souffrances sacerdotales, souffrances pour tant d'âmes égarées et trompées. » Donc dans une situation pastorale comme celle que nous vivons aujourd'hui, tout prêtre, tout bon prêtre ne peut que se poser des questions. La question. Pourquoi ? C'est fait très simple, très visible, pas tant, tous, nous les voyons plus ou moins, sont accélérés depuis 3-4 ans, précisément, avec la préparation du jubilé. Ce jubilé de l'an 2000 revêt une importance toute particulière. Parce que, au-delà des dates qui n'ont aucune importance, il reste vrai, je crois, que pour l'Église, il est un petit peu un tournant. Ce jubilé est la fin de l'ère de Jean-Paul II. Et la succession de Jean-Paul II s'avère extrêmement difficile. Non pas qu'il s'agisse de redéfinir une politique ecclésiastique, comme à chaque conclave, ce qui est à la rigueur normal, mais beaucoup plus profondément, il s'agit de définir une nouvelle ecclésiologie. Et nous arrivons là au centre du problème qui fait réagir nombre de prêtres. Si je parle de croiser des chemins, c'est parce qu'il y a en confrontation deux conceptions de l'Église absolument inconciliables. Pendant une vingtaine d'années, on a cherché à camoufler, à promouvoir une nouvelle ecclésiologie, une nouvelle conception de l'Église, sous des apparats conservateurs, en gardant les mots, en gardant les formes extérieures. Et avec cette fin du pontificat de Jean-Paul II, l'apparat tombe. Il tombe ce qui est déjà un aveu d'échec de cette nouvelle ecclésiologie. Sa seule solution pour pouvoir s'imposer maintenant est une solution frontale, un combat de face. Ce qui fait que beaucoup de jeunes prêtres, généreux, pieux, d'une vocation réelle, brûlante, qui se sont dévoués à l'Église, se sentent de plus en plus trompés. On leur fait servir une Église qui n'est peut-être pas forcément la leur, celle à laquelle ils se sont donnés. Et ils commencent très sérieusement à se poser des questions. Quelles sont donc ces deux conceptions de l'Église opposées ? Plus simplement, quelle est cette nouvelle ecclésiologie ? Puisque vous-même, de par ce que vous vivez et de par ce que vous avez reçu, savez ce qu'est l'Église. Je n'ai pas ici à en résumer l'enseignement, ce serait beaucoup trop long. Mais quelle est cette nouvelle ecclésiologie qui aujourd'hui tombe bas les masques ? Il a été résumé de manière très claire par Jean-Paul de lui-même au mois de janvier, par Mgr Casper, qui est le secrétaire du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens, dans un discours du 4 février. Il a été également dévoilé, par Mgr Saint-Macary, évêque de Rennes, dans un discours qu'il a prononcé en sa cathédrale le 25 janvier dernier, et qui a été publié dans l'Osservatore Romano, et de là, dans toutes les publications catholiques officielles à travers le monde. La base de cette ecclésiologie s'appuie sur une nouvelle conception de la foi. On a réduit la foi à l'adhésion à l'évangile du Christ. Mgr Casper expliquait, en parlant des luthériens dans ce discours, « Pour nos deux communautés ecclésiales, luthériennes et catholiques, la Bible est la proclamation par excellence de notre foi. » On réduit l'adhésion de foi à l'adhésion à la Bible. Ce qui est, par définition, la négation du besoin d'un magistère ecclésiastique. Si jamais la Bible est la proclamation par excellence de la foi, un magistère qui enseigne la foi en précisant des termes de la Bible trahit la Bible. Et il fait œuvre humaine et non pas œuvre surnaturelle. Si la Bible est le centre unique de la foi, aux dépens du magistère, quant au mode d'expression, aux dépens de la tradition, en tant que source de la foi. La foi a deux sources, le magistère et la Bible et la tradition. Et la tradition avant l'Écriture sainte, puisqu'elle s'est exercée dès la Pentecôte, avant même que les Écritures ne viennent résumer à grands traits la tradition. Cette nouvelle Église, donc, va saper à la base la notion de tradition, va saper à la base la notion de magistère qui enseigne, qui définit
qui dit le vrai. Ainsi réduite, cette foi est donc commune avec tous les chrétiens, orthodoxes, protestants, anglicans ou que sais-je. Cette foi est commune. Il y a donc entre toutes les communautés chrétiennes une unité fondamentale qui existe. L'unité de l'Église. L'unité de l'Église n'est plus l'unité de l'Église catholique, c'est l'unité des églises sœurs, c'est-à-dire l'anglicanisme, le luthérianisme, l'orthodoxie, le catholicisme, et ainsi de suite. Une unité fondamentale, essentielle, première, qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'elle n'est pas visible. Et donc, l'effort de l'Église, qui a pour mission de témoigner visiblement, le seul effort de l'Église sera de rendre visible cette unité. Et c'est ainsi qu'on définit le nouvel œcuménisme. Rendre visible une unité déjà existante. D'où les cérémonies œcuméniques. Le 18 janvier, à Saint-Paul-hors-les-Murs, pour l'ouverture œcuménique d'une porte dite sainte, en l'occurrence, on peut se poser la question, cette porte fut ouverte conjointement, vous le savez, par le pape, par le docteur Carré, qui est le pape, on peut dire, de l'Église anglicane aujourd'hui, et par un orthodoxe. À l'intérieur s'est déroulée une cérémonie œcuménique à laquelle participaient 50 représentants de 22 confessions différentes. C'est la première fois qu'une telle chose avait lieu. Même à Assise, cela n'avait pas eu lieu. À Assise, les religions ont pris les unes à côté des autres. Ici, elles ont eu une seule prière commune, centrée bien sûr sur le livre de la Bible. Dans cette conception nouvelle de l'Église, on constate donc que tout ce qui est objet de division, puisque c'est postérieur à la Bible, ces objets de division sont des résultantes de divisions humaines et non pas de foi, historique, sociale, morale ou autre. Et donc, la construction de cette unité va passer par la repentance. C'était la cérémonie du dimanche dernier où Jean-Paul II, à Saint-Pierre de Rome, a demandé pardon pour toutes les excommunications, condamnations qui avaient été faites par l'Église au cours de l'histoire. Tout cela choque. Choque énormément. Des évêques eux-mêmes, dimanche dernier, dans la chaire de leur cathédrale en Italie, ont dénoncé cette cérémonie de Jean-Paul II. Le loup se démasque, sinon il sait qu'il tombe. L'erreur, puisqu'elle est dissolvante, ne peut pas être stable, et son seul maintien possible est réalisé par l'accélération de son processus. Et c'est ce à quoi nous assistons en ce moment. Tel est donc ce que j'appelle cette croisée des chemins. Aujourd'hui, tout prêtre, tout ministre de l'Église en vient inéluctablement à se demander de quelle Église il est ministre. Un prêtre de 47 ans me l'a écrit. Bravo pour votre initiative en direction de tous les prêtres. J'ai lu les numéros que vous m'avez envoyés. Ils sont intéressants et appellent vraiment à la réflexion. Nous avons bien compris que le débat liturgique qui faisait rage n'était que l'arbre qui cachait la forêt. Ainsi, lorsque la bataille fut enfin terminée, est apparu le véritable débat que vous exprimez dans vos lettres, celui qui porte sur l'ecclésiologie. Je crois que, et je ne crois pas, je vois, j'entends, que beaucoup de prêtres, trop peu à mon sens, bien sûr, se posent ces questions-là. Ce que vous attendez de moi peut-être, c'est de savoir justement comment le clergé diocésain que je rencontre, avec qui je corresponds, comment ce clergé diocésain réagit, quelle direction il prend. Cela nous intéresse éminemment, puisque fils de l'Église, nous aimons notre mère et nous lui voulons des fidèles serviteurs. On peut très facilement diviser le clergé français en trois tranches d'âge. J'ai proposé cette division à tel ou tel évêque diocésain que j'ai pu rencontrer. Ils m'ont dit à la fin, vous décrivez parfaitement mon diocèse. Donc je la crois assez fondée. Il y a la classe numériquement plus importante, qui est celle des prêtres de 50 à 75 ans à peu près. Là, malheureusement, rares sont les remises en question. Des prêtres en qui souvent il reste quelques relents devant 68 ans, ou des prêtres qui n'osent plus, ne veulent plus réfléchir. C'est dur de se remettre en cause après 30 ans de service. Et ils se disent que, ma foi, si l'Église va s'écraser contre un mur, eux ne seront plus là au moment du choc. C'est aux jeunes de voir le problème. Il est facile de fermer les yeux. De cette tranche, donc, en général, fermeture, condamnation, sauf exception, rare. Au-dessus de 75 ans, la même attitude existe. C'est vrai. Cependant, un nouveau facteur entre en jeu, ces prêtres approchant du moment de la mort, font un bilan de leur vie, de leur service dans l'Église. L'un d'eux, je l'ai rencontré par hasard, il ne savait pas mon nom, il ne savait pas que je m'occupais de cette lettre, a commencé à me parler, très simplement, on a échangé un petit peu l'expérience qu'il avait, un prêtre qui avait 50 ans de prêtrise. Je lui ai demandé un petit peu son expérience, de me raconter tout ce qu'il avait vécu. Il m'a tout décrit, et à la fin il m'a dit, je ne lui ai rien demandé. Mon église paroissiale s'est vidée en 2 ans, de 68 à 70. Je commence à comprendre pourquoi. Donc il y a chez ces prêtres, chez certains de ces prêtres, un bilan honnête qui commence à apparaître à leurs yeux. J'ai 3 témoignages différents de ces prêtres de plus de 75 ans qui, suite à cette initiative de lettre aux prêtres, suite à quelques contacts, ont repris pour eux la messe traditionnelle. Des prêtres qui n'ont plus de charge pastorale, malheureusement, mais qui, par réflexion, sont revenus à ce qu'on leur avait enlevé. Et ces prêtres, donc, âgés, sont tout heureux de notre initiative. L'un m'écrit: je viens de recevoir votre lettre numéro 2 à nos frères prêtres. Je me permets de vous féliciter, merci. Vous êtes dans la bonne voie. Dites la vérité dans la charité fraternelle, mais restez ferme. Nous nous exprimons par votre plume. Je prie pour vous. Le Seigneur vous aide à accomplir votre mission. Notre-Dame vous assiste. Ces prêtres, donc, sont heureux que ce qui les avait opprimés pendant tant d'années soit remis en cause officiellement, publiquement, par certains aujourd'hui. Mais il est évident que la tranche la plus intéressante des prêtres, celle qui réagit le plus, est celle des jeunes prêtres. J'appelle un prêtre jeune un prêtre qui a moins de 50 ans. Pour la bonne raison qu'il a été ordonné prêtre après le concile et qu'il est rentré au séminaire après le concile. Ce ne sont pas des prêtres conciliaires, ce sont des prêtres fils du concile. Pour le meilleur ou pour le pire, on va le voir. Ces prêtres, souvent, ont très peu reçu au séminaire. Soit ils sont assez peu formés, c'est le type du jeune séminariste qui rentre au sortir d'une troupe scout ou autre, très dévoué, très apostolique, mais qui n'a pas une formation intellectuelle personnelle. Ou alors, autre catégorie, l'autodidacte, qui s'est formé avant de rentrer au séminaire, parce qu'il n'entendait pas grand-chose du séminaire de ce côté-là, et qui, pendant le séminaire, s'est formé par lui-même. Depuis quelques années, je suis en contact avec des séminaristes d'un séminaire interdiocésain en France pour leur passer en douce des programmes de travail et des livres sur lesquels ils puissent trouver la saine doctrine. Parmi ces jeunes également, certains sont rentrés et se sont laissés totalement imprégner par tout ce vent modernisme qui a pénétré les séminaires depuis un bon petit bout de temps. Et nous avons donc effectivement aussi des jeunes prêtres, non pas formés, non pas de terre vierge, intelligemment parlant, mais absolument déformée. Ce qui donne donc parmi ces jeunes, en fait, deux types de réactions très très tranchées. Les uns adhèrent sans complexe à cette nouvelle ecclésiologie. Mais ils arrivent de manière très rapide à la profession d'hérésie. Un exemple, un jeune dominicain qui, n'ayant pas suffisamment de place pour écrire une réponse complète à la lettre à nos frères prêtres, en a fait une conférence publique. J'ai le texte de cette conférence, c'est ce prêtre qui me l'a envoyé lui-même. C'est très révélateur. Il explique donc combien la Bible est le point central et unique de la foi et explique le Concile Vatican II en fonction de cela. Ce qu'ont fait les pères du Concile, c'est une relecture critique de l'histoire. De quelle histoire ? De l'histoire des formulations de la foi, pour les remettre en cause. Étude critique des formulations de la foi. De l'histoire des formulations de la foi, des pratiques, pour discerner précisément ce qui relève de l'essentiel, la Bible, et ce qui est plus lié à l'histoire qu'à la foi. Il va prendre des exemples et lier à l'histoire de la foi la transsubstantiation, l'immortalité de l'âme, et ainsi de suite. C'est très clair, mais très triste. Alors, ces choix, évidemment, passent par le refus explicite du magistère de l'Église. Il faut bien reconnaître que Mgr Lefebvre ne s'est pas séparé de Rome pour une question de latin ou soutane. On a dit qu'étant parti longtemps du continent, il n'avait pas pu suivre l'évolution théologique et qu'il ne s'y retrouvait plus au moment du concile. C'est vrai, mais c'est encore trop peu dire. Car il ne s'agit pas seulement d'une évolution ou d'une adaptation qu'il aurait eu du mal à assumer. C'est un dominicain moderniste qui parle. Il s'agit de positions qui avaient été condamnées par les papes d'hier et qui étaient proclamées comme vraies par le concile sur des points d'importance. Autrement dit, la première rupture, c'est bien le concile qui l'a faite. En relativisant, voire en contredisant formellement l'enseignement des papes antilibéraux. Si l'on juge les positions de Mgr Lefebvre, obtus et passéistes, il faut reconnaître qu'elles n'ont rien d'extrême par rapport à celles d'un Pie IX ou d'un Pie X. Le seul tort de Mgr Lefebvre est d'avoir eu la ferme conviction que ces papes ne pouvaient pas s'être trompés. Sa seule limite est d'avoir cru sans limite ses formateurs des années 30. C'est extrêmement clair. Cet homme, ce dominicain, a fait le choix de son Église. Ce qui est passé par le refus de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Le refus de la foi. Le refus du magistère qui transmet la foi. Ce sont ces prêtres, jeunes, qui souvent abandonnent leur prêtrise. Heureusement, d'autres réagissent tout à fait autrement et de manière beaucoup plus encourageante. L'un d'eux me disait tout récemment, du Concile Vatican II, on dira que ce fut un concile disciplinaire. Et qu'au lieu de mettre la discipline, il n'a fait que troubler l'Église. Le grand problème de ces jeunes prêtres qui réagissent, qui réfléchissent, et donc ils nous demandent des éclaircissements. Plusieurs d'entre eux sont venus à Flavigny, à leur demande, rencontrer l'un de nos évêques pendant une bonne demi-journée, ou pendant donc plusieurs heures, nous avons parlé sans discontinuer de toutes les grandes questions touchant le formel de la crise de l'Église. Il était magnifique de voir ces prêtres poser des questions au début pour à la fin demander des conseils. Au sortir de cette réunion, l'un de ces prêtres m'a dit « Cela fait du bien de rencontrer un évêque catholique. » Il y a donc, je crois, tout un travail réel à entreprendre. Un travail double, un travail de soutien, tout d'abord, de ce qu'il y a de bon chez ces prêtres. Ce qui les anime, c'est le désir d'une sainteté sacerdotale. Ils ont gardé le sens du prêtre. Et donc, notre devoir à nous, prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X, et de soutenir, d'alimenter ce désir de sainteté en eux. C'est bien la vocation première de notre fraternité. Et donc, outre les lettres que j'envoie trimestriellement au nom de mes supérieurs. J'envoie également des hors-séries qui sont destinés uniquement aux prêtres, ceux-ci. Ainsi, à Noël, je leur ai envoyé deux lettres écrites au début du siècle par un prêtre béatifié par Jean-Paul II, M. l'abbé Pope, deux prêtres sur la sainteté sacerdotale. 280 prêtres m'ont répondu pour me remercier et me dire tout le bénéfice qu'ils en avaient tiré. Première mission donc pour nous, maintenir, développer ce désir de sainteté sacerdotale. Deuxième mission, éclairer. Éclairer sur les pourquoi de cette crise, bien évidemment, mais aussi beaucoup plus qu'un bilan sur le passé, les solutions à apporter. C'est peut-être l'opération la plus délicate, parce que il faut prendre ces prêtres là où ils sont, sans vouloir d'un coup tout leur donner, ils étoufferaient. Il faut laisser le temps de digérer. Et là, la chose est très délicate. C'est pour cela que nous avons pris comme principe dans les lettres trimestrielles que nous envoyons de faire une lettre forte, une lettre de pause. Nous avons fait la numéro 3 sur la messe et la liturgie qui était porteur de vérité, de foi, d'où l'importance de la liturgie, qui a fait beaucoup, beaucoup de remue-ménage. Donc la lettre 4, faut une lettre de pause. La lettre 5, qui a été routée avant-hier, est une lettre très forte. Nous verrons les réactions. Donc tout cela est délicat, tout cela réclame également des contacts personnels, des rencontres, des discussions, de la patience et surtout, surtout, de la prière et du sacrifice. Si nous-mêmes, nous éclairons à travers une feuille de chou, appelons les choses par leur nom, le seul qui éclaire vraiment les âmes, c'est l'Esprit Saint. On aura beau écrire des centaines d'encycliques, si l'Esprit Saint n'est pas au rendez-vous, ça ne servira à rien. Et dans cette tâche centrale, qui est celle d'implorer l'Esprit Saint pour l'Église, pour ses ministres, là, vous êtes tous, autant que moi, concernés. Tous, en tant que chrétiens, vous avez le devoir, mais je n'aime pas vraiment ce mot devoir, parce qu'il doit y avoir beaucoup plus, ce souci, cet amour, cette angoisse presque, angoisse d'amour, hein, ce désir très fort du retour du clergé à l'enseignement véritable de la foi, à une conception très claire de l'Église. Il faut, et vous le voulez, donner à ces prêtres ce qui peut-être leur manque également, c'est la force de réagir. L'été dernier, 5 jeunes prêtres que je connais ont eu ce qu'on appelle des mutations-punitions. Ils ont été enlevés du ministère actif pour être enfermés dans un bureau avec interdiction de la messe en public pour 2 des 5 parce que jugés trop conservateurs. Et donc, les prêtres qui réfléchissent, qui commencent à ouvrir les yeux, ont cette crainte de perdre leur ministère. Ils sont curés, curés de paroisse, ils sont pasteurs. Et c'est peut-être ce qui les empêche de réagir plus ouvertement. Certains ne s'en privent pas. Quelques exemples glanés de ci, de là. Un prêtre, curé d'une paroisse depuis 8 ans en France, qui un dimanche arrive devant la table et, avant de commencer la messe, explique à ses fidèles: cela fait 9 ans que vous priez en me voyant. Je pense que parmi vous, je n'ai pas l'unanimité. Et donc je pense que me voir en dérange quelques-uns, les empêche de prier. Moi, en tant que pasteur, je vous aime tous. Mais il est vrai que j'aimerais bien être de temps en temps un vrai pasteur, être à votre tête et prendre la tête en marchant vers Dieu. Alors désormais, une fois par mois, je célébrerai la messe dominicale au maître-autel, qui est magnifique, regardez-le, et de quitter la table pour partir au maître-autel. Et il m'expliquait qu'au bout de 3 dimanches, il baissait la voix, et le 4e dimanche, il a pris la messe traditionnelle. Toutes les tactiques sont bonnes. Néanmoins, elles sont très osées, et tous n'osent pas faire cela. Et puis, ces prêtres font cela une fois, ils n'ont qu'un seul désir, c'est le faire toujours. Et c'est là où ils espèrent en nous. Lorsque il y a eu toute cette crise qui a agité la fraternité Saint-Pierre, crise malheureuse, ces prêtres m'ont dit combien ils n'avaient aucune confiance en la fraternité Saint-Pierre. Ils en étaient heureux dans le sens que la messe traditionnelle apparaissait peut-être de manière plus générale, le mot est déjà beaucoup trop fort, mais qu'ils n'avaient aucune confiance en cette fraternité pour mener le combat. Et ils me disent, les seuls qui peuvent mener ce combat, c'est vous. Parce que les coups, on ne peut plus vous en donner. Alors menez-le et soyez ferme. Donc tout cela pour vous encourager, vous montrer un petit peu ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis. J'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas la majorité des prêtres. Attention, ne nous leurrons pas avec de faux espoirs. Attention. Mais ces prêtres ont pour eux de vivre leur prêtrise. Et ça, un jour ou l'autre, ça finit toujours par l'emporter. Donc même si, globalement, si nous considérons, nous revenons à notre regard global du début sur la situation actuelle de l'Église, il est évident que cette nouvelle ecclésiologie, cet œcuménisme tout azimut, est pratiquement victorieux. C'est évident, humainement parlant. Il est évident que parmi les évêques de France, aucun n'ose appuyer ouvertement ce jeune clergé, alors que la plupart n'hésitent pas à écraser ce jeune clergé. Si le creux de vague est profond, s'il n'est même pas encore tout à fait atteint, nous ne savons pas ce que l'avenir réserve. Ce qui est néanmoins encourageant, c'est que dans cette descente qui continue, nous voyons déjà peut-être ce qui sera le retour après le creux de la vague. Nous voyons des premiers éléments apparaître de manière très disséminée, très fragile, très timide, mais néanmoins qui existe. Et ça, il nous faut le voir, il nous faut le soutenir, et il nous faut surtout le fortifier et le canaliser dans la bonne direction. C'est un petit peu l'œuvre à laquelle nos supérieurs se sont engagés par cette lettre au prêtre. Et c'est donc celle également à laquelle je vous demande de participer par vos prières, par vos sacrifices. Je vais m'arrêter là, comme ça il n'y aura pas de problème de cassette.
Je remercie donc M. l'abbé de la Roque pour cet appel vibrant et rempli de cet amour de l'Église, hein, qui nous fait agir. Hein.